Donc, je vais tout de suite donner la parole à Monsieur Delahaye. Je vais vous laisser vous présenter une fois que vous aurez réactivé votre micro. Voilà.
Bonjour à tous, bonsoir. Moi, je comprends parfaitement tous les enjeux et toutes les inquiétudes des riverains, mais je voudrais aussi vous faire part des inquiétudes des entreprises, puisque je n'en entends jamais, quasiment jamais parler, à part un article il y a peut-être un mois sur les entreprises qui se plaignaient de ne pas être informées ou du fait que le projet n'avançait pas assez vite à leurs yeux. Donc, je voudrais déjà réagir sur une chose qui a été dite tout à l'heure. Est-ce que Nantes Atlantique est l'aéroport du Grand Ouest? Dans les faits, oui. Et je peux vous donner un chiffre. L'aéroport de Nantes, c'est à peu près entre 70 et 75% du trafic sur Bretagne, Pays de la Loire. Donc, c'est assez important. Et forcément, ça veut dire que en termes d'enjeux économiques, ça représente énormément pour toutes les entreprises du Grand Ouest, pas seulement les entreprises de Nantes ou de la Loire-Atlantique. En ce qui me concerne, je suis actuellement au Cap, en Afrique du Sud. Je suis détaché au Cap et mon entreprise est sur Nantes. Alors, ce n'est pas mon entreprise, c'est l'entreprise dans laquelle je travaille. Et je peux vous dire que dans l'agglomération nantaise, il y a plein d'entreprises qui exportent des biens ou des services et qui ont besoin de se déplacer. Ce qui est mon cas, ce qui est le cas de plein de gens. Et on ne le fait pas forcément par plaisir, on le fait parce que c'est une nécessité. Donc, j'ai deux questions. La première question concerne finalement l'aérogare. J'ai le sentiment qu'avec ce projet, on est en train de faire un aéroport au rabais. Et c'est une inquiétude que j'ai, pas seulement moi, je le vois autour de moi. Alors que les grandes métropoles autour de nous, que ce soit Bordeaux, Toulouse, développent plein de choses au niveau de leurs aéroports. On a l'impression qu'à Nantes, on a presque honte de dire qu'on a un trafic qui se développe ou qu'on a un aéroport attractif. Et j'aimerais un petit peu que le discours change. Je comprends la position des riverains, bien entendu, mais je pense qu'il faut également écouter les acteurs économiques. Donc j'aimerais savoir si véritablement il y a un projet de faire quelque chose. Une aérogare digne de ce nom qui sera quelque chose, un outil qui permettra de garder l'attractivité du territoire, ou alors si c'est juste deux, trois coups de peinture, deux, trois cloisons qu'on change, et voilà. Donc j'ai une grosse inquiétude par rapport à l'aérogare. Et ma deuxième question, c'est par rapport à la connectivité qu'on offre. Je sais que pour les habitants de Saint-Nazaire, de Vannes, de Rennes, d'Angers, c'est très important d'avoir un aéroport accessible, notamment depuis la gare de Nantes. À la gare de Nantes, vous avez aujourd'hui la possibilité de vous rendre en train, d'ailleurs que ce soit dans les villes, des villes aux alentours ou également même des villes plus proches de la Loire-Atlantique. Il y a beaucoup de connexions en train et c'est très important que cette connexion qui va être offerte par bus ou par train de la gare de Nantes vers l'aéroport soit une connexion directe et qui permette une facilité d'accès avec une forte fréquence, enfin une fréquence acceptable. Donc j'ai entendu parler d'un bus, mais j'ai entendu parler également d'une halte ferroviaire sur la ligne entre la gare de Nantes et Sainte-Pazanne, mais une halte ferroviaire qui serait à entre 500 mètres, je crois, et 800 mètres de l'aérogare, je ne sais pas trop. Et là, je suis inquiet parce que je trouve ça très dommage qu'on n'utilise pas la voie ferroviaire qui vient jusqu'aux portes de l'aéroport et qu'on mette une halte ferroviaire à 500 mètres. J'ai le sentiment, si vous voulez, qu'on fait quelque chose, encore une fois, au rabais. Donc, voilà, je voudrais être peut-être rassuré par vos propos. Pour l'instant, je n'ai pas beaucoup d'éléments qui me rassurent.
Merci monsieur. Je propose de répondre. Enfin, il n'est pas question de faire un aéroport au rabais. Ça n'est ni la volonté de l'État, ni, je crois pouvoir le dire, l'attente des élus. En revanche, ce qui est là aussi l'enjeu du projet, c'est justement de concilier à la fois développement économique, ambition du réaménagement et de la réponse en termes de services aéroportuaires qui est proposée à la fois aux entreprises, aux habitants, au territoire, et en même temps la meilleure protection possible de la population. Donc, on s'inscrit dans ce cadre-là. C'est un équilibre que nous pensons avoir trouvé. Peut-être quelques indicateurs pour vous donner le fait, vous rassurer sur le fait que l'aéroport de Nantes-Atlantique sera à la hauteur des standards internationaux qu'on peut attendre pour une métropole telle que celle de la taille de Nantes et au-delà pour une région comme les Pays de la Loire. Comme je vous l'indiquais, on a posé des exigences en début de présentation, je ne sais pas si vous étiez déjà là, mais on a posé des exigences élevées en termes de qualité de service, et ça se traduit par de nombreux indicateurs qui s'imposeront au concessionnaire et dont il devra rendre compte. Il y a par ailleurs un intérêt clair à ce que le concessionnaire, au travers de la connectivité qu'il proposera, puisse répondre aux besoins des entreprises et des collectivités territoriales. Et nous avons prévu pour cela qu'ils puissent échanger dans des instances particulières avec les élus. Donc, si vous voulez, il y aura, dans le cadre de la future concession, un alignement, ou en tout cas un dialogue fructueux entre ce que le concessionnaire et les compagnies aériennes sont capable de proposer comme connectivité et la vision stratégique que peuvent en avoir les territoires. Et enfin, je ne citerai qu'un chiffre, on est sur à minima 450 millions d'euros hors taxes pour réaliser le réaménagement de l'aéroport de Nantes-Atlantique. C'est une estimation qui est sans doute basse, c'est celle que l'État a réalisée en 2019, au moment où nous avons lancé l'appel d'offres pour la future concession. De toute façon, le coût final finalement de ce réaménagement sera révélé par les offres des candidats à cette concession. Mais ce qui est certain, c'est que personne n'ira investir de telles sommes d'argent qui se chiffrent en centaines de millions d'euros pour faire un aéroport qui ne soit pas, une vitrine d'excellence des Pays de la Loire. Et donc, c'est bien cette ambition que nous avons. Je peux vous dire aussi que cette ambition, nous la partageons avec l'ensemble des candidats à l'appel d'offres qui est en cours. Et j'ai toute confiance pour que tout cela aboutisse à un projet dont à la fois les entreprises, les territoires et les Nantais, les habitants des Pays de la Loire seront fiers. Voilà ce que je souhaitais vous répondre, monsieur. Est-ce qu'on peut prendre les questions suivantes, Maxime ?
Bien sûr, on va reprendre alors monsieur Yves Enaf qui avait déjà posé une question. Donc, on vous écoute, monsieur Enaf. Vous aurez activé votre micro. Voilà, normalement, vous avez juste à appuyer sur un bouton. Merci. Voilà, parfait. On vous écoute.
Alors voilà, ce qui me concerne, c'est un peu la sécurité, si vous voulez, des atterrissages face au sud. Parce que le problème est le survol à basse altitude par les avions de l'agglomération. Alors, avec la double approche, en ce qui concerne l'approche en ligne droite, si vous voulez, dans l'axe de la piste, avec l'ILS, c'est sûr, le pilote aura des informations sur son alignement et sur son plan de descente. C'est donc très sécurisant, si vous voulez, avec en plus un décalage, bien sûr, du seuil d'atterrissage. Par contre, avec l'axe décalé, c'est-à-dire la deuxième forme d'atterrissage, si vous voulez, qui fait arriver l'avion en oblique par rapport à l'axe de la piste, les précédents moyens de radionavigation donnaient uniquement des alignements, la position de l'avion par rapport à l'axe de la piste, et sans que ce soit très très précis. Il n'y avait aucune information sur la position de l'avion sur son plan de descente. C'est pour ça qu'on voyait quelquefois des approches un peu bizarres. Et comme j'habite dans l'axe de la piste, de nombreux avions interceptaient l'axe bien avant le point prévu et survolaient régulièrement mon habitation. Alors, je voudrais savoir quels sont les moyens de radioguidage qui seront utilisés pour la piste, pour la piste 21 dans un type d'approche désaxée.
Oui, merci monsieur pour cette question qui est très précise et qui porte sur un enjeu important, la sécurité. Je vous propose de passer la parole à ma collègue Emmanuelle Blanc, qui est avec nous ce soir et qui est la directrice de l'autorité de surveillance de la sécurité pour la région Grand Ouest. Emmanuelle, je ne sais pas si tu es avec nous.
Merci, je suis avec vous. Je ne sais pas si vous m'entendez.
Parfait.
Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Oui, donc je suis Emmanuelle Blanc, la directrice de la sécurité de l'aviation civile Ouest. Je crois que vous avez répondu en partie à beaucoup de questions. Aujourd'hui, donc, face au Sud, il y a uniquement une procédure désaxée. L'objectif de sécurité, évidemment, c'est de toujours aller vers une sécurité renforcée. Et donc, c'est pour cela que cette procédure désaxée dans le projet, elle sera réservée à une utilisation en conditions météorologiques favorables. Et la procédure axée que vous avez très bien décrite avec un ILS à la fois en ligne droite, ce qui est effectivement un gage de sécurité, mais également avec des informations sur le plan de descente, sera sécurisée dans le plan vertical. Donc, la procédure désaxée dans le futur, elle sera quand même utilisée uniquement par conditions météorologiques favorables, ce qui est un élément déjà positif. Ensuite, vous avez raison, elle s'appuie aujourd'hui sur des procédures, on va dire, conventionnelles, mais aussi sur un guidage satellitaire dans le plan horizontal. Dans le futur, ce qui est envisagé, et ça sera développé petit à petit avec des discussions avec les compagnies aériennes et avec le concessionnaire, ce sera également de pouvoir mettre en place un guidage satellitaire vertical. Donc, de pouvoir avoir non seulement le guidage horizontal comme aujourd'hui, mais en plus un guidage vertical. Alors, il y en a de divers types. Je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail des types de guidage vertical qu'on peut mettre en œuvre, mais la question qui va se poser, c'est de trouver un compromis pour avoir dans un premier temps ou dans les temps les plus proches un guidage vertical qui puisse être utilisé par une très grande majorité des vols qui iront à Nantes Atlantique. L'idéal, évidemment, ce serait d'avoir 100% des vols qui seraient capables de suivre de telles procédures. Aujourd'hui, on peut estimer que pour un premier niveau de guidage vertical, il y a à peu près 85% des vols dont on pense qu'ils seraient en mesure de les voler. Ça nécessite des équipements à bord des avions, ça nécessite également des formations pour les équipages. Donc, on va y aller petit à petit pour sécuriser encore plus. Déjà, le premier niveau de sécurisation, c'est que c'est utilisé par beau temps, la procédure désaxée. Et le deuxième niveau de sécurisation, ce sera d'avancer par rapport à du guidage vertical.
Merci.
Si on va prendre une autre question. Monsieur Michael Lanuzel. Je vous laisse activer votre micro et poser votre question.
Hop. Bah, j'arrive pas à activer ma caméra.
Voilà, on vous voit, c'est parfait. Merci.
Bonjour à tous et merci pour votre présentation jusque-là, c'est parfait. Donc, je me présente à vous tous, Michael Lanuzel. Donc, je suis adjoint sur la ville de Bouguenay. Et j'avais une petite question toute bête, en fait, et vous allez très rapidement me répondre. Depuis quand, enfin, le projet de Notre-Dame-des-Landes, il était parlé depuis combien d'années ? En Gironde. Hein.
Je n'ai pas compris votre question, monsieur.
Non. Depuis quand le projet, il avait commencé on parlait de Notre-Dame-des-Landes, en fait.
Ça dépend ce qu'on appelle, de quoi on parle exactement. Si on parle des premières réflexions du projet de transfert qui est abandonné, hein, d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes, ça remonte au début des années 60. Après, dans les années 70, il a été à nouveau réétudié. Il a ensuite puis il y a eu des atermoiements. Et ensuite, il a un peu repris au début des années 90 pour être davantage porté politiquement vers la fin des années 90, ce qui a abouti en 2002 à la décision de lancer un débat public qui s'est tenu en 2003. Et puis, il a été déclaré d'utilité publique en 2008. Bon, ça, c'est l'historique rapide. À partir de là, on a eu à peu près une dizaine d'années d'opposition de plus en plus violente qui ont abouti, comme vous le savez, à la décision de 2018.
Attendez, monsieur, on ne vous entend pas, il faut réactiver le micro.
Je vous remercie. En fait, c'était juste, je vais faire vite, mais merci pour tout ceci. En fait, je voulais rebondir surtout par rapport à l'onglet délaissement et le droit au délaissement donc des personnes où aujourd'hui, la date 2010-2018, dans cette période-là, et on dit pour les personnes qui ont pu acheter en sachant que l'aéroport devait se déplacer, mais comme vous l'avez dit, c'est un projet qui date de bien avant. Et donc, moi, aujourd'hui, nous avons porté au conseil municipal de notre ville, mais je crois aussi que Saint-Aignan avait fait la même chose, à savoir que pour nous, il était lieu de requalifier ce délai donc avant 2010, d'accord, puisque aujourd'hui, comme vous avez pu le dire, c'est un projet qui date depuis très longtemps. Donc, les gens ont peut-être pu acheter depuis très longtemps. Mais aujourd'hui, comme vous avez pu le dire dans votre présentation, il n'y a que dans la période de 2010 et 2018. Au-delà de 2018, je ne reviens pas. En revanche, moi, ce que j'attends d'une réponse, alors peut-être pas maintenant, mais c'est pour toutes les personnes qui ont pu acheter avant et qui, pour nous, doivent être aussi profiter de ce droit de délaissement. Je pense que vous avez compris. Et donc, on attend aussi un retour de la préfecture puisque un courrier avait été envoyé. Mais bon.
Je comprends, monsieur, votre question. Alors, peut-être je vous répondrai de deux manières. La première, c'est que ce n'est pas la DGAC qui décide de cela, c'est le législateur. Et donc, ces critères ont été fixés par la loi. Ça veut dire que ça a été validé par l'Assemblée nationale, validé par le Sénat. Maintenant, c'est inscrit dans la loi et la DGAC, en tant que service de l'État, applique la loi. Bon, si je vous donne la façon dont personnellement j'interprète cette loi. Pourquoi jusqu'en 2018 et pas avant ? Eh bien parce que 2010, excusez-moi, et pas avant. Parce que 2010, c'est la date à partir de laquelle on peut considérer que le projet était devenu d'une certaine manière certain. En tout cas, il n'y a rien qui laissait supposer à cette date-là qui n'allait pas être, l'aéroport n'allait pas être transféré. Si on prend d'autres dates, par exemple la date du débat public ou par exemple la date de la déclaration d'utilité publique 2008, débat public 2003, vous êtes un élu, d'après ce que je comprends, j'imagine que la ville de Bouguenay porte de nombreux projets. Certains font l'objet de concertations préalables, peut-être de débats publics, j'en sais rien, mais en tout cas peut-être de concertations préalables. Peut-être que certains ont déjà fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique et peut-être que parmi tous ces projets, certains n'ont finalement pas été réalisés. Et donc, ce que vous êtes en train de m'indiquer finalement, c'est que parce que la puissance publique, que ce soit l'État, une collectivité, mais la puissance publique dans son ensemble, aurait lancé un projet et l'aurait envisagé, mais sans être allé jusqu'à le commencer, à le réaliser sur le terrain, le fait de ne pas le réaliser ouvrirait droit à une forme de réparation parce que la puissance publique a changé d'avis. Et si vous voulez, je pense que cet enjeu-là, il se pose sans doute pour l'aéroport de Nantes, il se pose sur de nombreuses autres opérations qui sont conduites par les collectivités dans la métropole nantaise, en France plus largement, et que le législateur a, je pense, de manière assez sage, si je peux me permettre de porter le jugement, écarté ce risque et qui aurait consisté à considérer que parce que d'une certaine manière, la puissance publique à un moment donné change d'avis, eh bien, elle doit indemniser des personnes qui se trouveraient, selon elle, lésées. Voilà, en gros, l'esprit, je pense, de cette loi. Et je pense que, en tout cas, un certain nombre de personnes ont compris cette approche-là et sans doute que dans les échanges que vous pouvez avoir ou que l'État peut avoir avec les élus, on pourra préciser ces points-là. Bien sûr, s'il y a des questions plus précises sur ce cadre juridique, nous nous tenons aussi bien à la DGAC que la préfecture à la disposition des élus pour échanger sur tout cela.
Merci, Monsieur Lacor. Je vous propose de faire une petite pause et de passer sur des questions qui ont été posées via l'outil Slido à l'écrit. Donc, on a 4 questions. Comment, dans un lieu donné, vérifier la mesure de bruit théorique par rapport au ressenti physique? Est-ce que ça a été fait de comparer ces deux? Pardon, oui. Monsieur Lacor.
Pardon, Maxime, peut-être avant, je crois qu'il y avait... Je viens de relire les notes là, que j'ai prises pendant qu'on me posait des questions. Je n'ai pas dû répondre à la question de la halte ferroviaire qui était...
Sur les accès, effectivement.
Oui, ce qui était posé par M. Delahaye. Simplement, pour répondre à M. Delahaye tout à l'heure, il y avait de nombreux sujets dans sa question, mais bien évidemment, l'enjeu de la desserte ferroviaire de la plateforme aéroportuaire est un enjeu, on l'a dit, qui est partagé de manière unanime à la fois par l'État, par les collectivités et par l'ensemble des parties prenantes et notamment les participants à la concertation de 2019. Et c'est pour cela que, dans un premier temps, l'État, Nantes Métropole et la région se sont regroupés pour réaliser une étude stratégique de la desserte de l'aéroport. C'est une étude qui a été cofinancée donc par l'État et donc Métropole et la région. Et ça a abouti ensuite à la déclinaison de deux projets qui s'affichent là à l'écran. La desserte de l'aéroport par le bus à haut niveau de service. Ça, c'est un projet porté par Nantes Métropole. Et d'un autre côté, la création d'une halte ferroviaire qui permettra, donc c'est un projet porté par la région Pays de la Loire, qui permettra, lui, de mettre en relation l'aéroport avec la gare TGV de Nantes. Donc voilà, moi après, je travaille là déjà assez, je suis un agent de l'État, il ne serait pas convenable que je me prononce sur ces projets, que j'en parle de manière détaillée à la place des grandes collectivités, mais en tout cas, comme on le disait en début de réunion, cet enjeu-là est traité et une réponse à la hauteur de l'enjeu me semble être apportée.
Alors, maintenant. Et Monsieur Lacorte, si je ne me trompe pas par rapport à cette question, l'idée est bien de reprendre pour la halte ferroviaire la voie Nantes-Saint-Pazanne.
Oui, c'est bien ça, oui. Voilà. Oui, qui est affichée à l'écran.
Exactement. Voilà, on va pouvoir passer aux questions Slido. Je les réaffiche. Donc, cette première question sur la mesure de bruit théorique par rapport au ressenti physique. Est-ce qu'on peut, et avec la question, une seconde question, peut-on interpeller la Direction générale de l'aviation civile pour obtenir une mesure réelle du bruit dans son quartier? On a d'autres questions, je vais toutes les lister, ensuite on y répondra les unes après les autres. Vous parlez principalement de zones concernées par les nuisances à l'atterrissage. Qu'en est-il des nuisances liées au décollage? Autre question, nous utilisons la route de la Bretagnerie tous les jours, les cars scolaires aussi, pour rejoindre les collèges et les lycées. Pourquoi ne pas faire un tunnel au lieu de la couper? Ça faisait partie des scénarios. Enfin, ça ne faisait pas partie des scénarios que vous avez présentés. Avez-vous, et dernière question, avez-vous pris en compte l'augmentation du nombre d'enfants et d'écoles impactées par ce réaménagement? Voilà la question, effectivement, qui était revenue souvent en concertation, des établissements scolaires et de l'impact du réaménagement. Bien par sûr. Quelle question vous souhaitez commencer, M. Lacorte?
Alors, sur la question des établissements scolaires et du nombre d'écoles, je passerai ensuite, je pense, la parole à mon collègue Thierry Latapie, directeur des territoires et directeur de la direction des territoires et de la départementale des territoires et de la mer, décidément, je vais y arriver. sur la route de la Bretagnerie, pourquoi ne pas faire un tunnel au lieu effectivement d'intercepter la route? Écoutez, moi je pense que il y a quand même même si les enjeux environnementaux ne sont pas exceptionnels, il y a quand même néanmoins sur ce secteur un certain nombre d'enjeux environnementaux et assurément l'impact d'un tunnel, a fortiori sous une piste, ou en tout cas un bout de piste, aurait un impact environnemental sans doute beaucoup plus élevé que les solutions que nous avons envisagées et que nous présenterons prochainement aux élus de la commune de Saint-Aignan. Voilà, donc ce qui a guidé notre approche. Après, on pourra bien sûr discuter de diverses options si cela apparaît nécessaire. Sur la mesure du bruit. Alors, sur la mesure du bruit, on a un certain nombre de stations de mesure du bruit qui sont utilisées par, enfin, pardon, qui sont exploitées par le concessionnaire actuel. Et donc, de mémoire, il me semble que les mesures qui sont réalisées, donc c'est vraiment le bruit réel qui est mesuré en certains points, est accessible en ligne sur le site internet du concessionnaire actuel. Je suis désolé, je n'ai plus exactement les emplacements de ces stations de mesure en tête et je ne pense pas qu'autour de la table, quelqu'un ait ça aussi sous la main. Mais en tous les cas, si nécessaire, on pourra apporter une réponse écrite à cette question. Sur la mesure réelle du bruit. Effectivement, les cartes qu'on a présentées au stade actuel des études, ce sont des cartes, comme on l'a indiqué, de bruit moyenné. Je tiens vraiment à rappeler, pour que ce soit clair pour tout le monde, lors de la phase d'enquête publique sur les modifications des trajectoires et puis même lors de la phase d'étude d'impact globalement du projet, il y aura d'autres indicateurs de bruit qui seront proposés et qui permettront d'améliorer l'information du public. Ensuite, il y avait une dernière question. Vous parlez principalement de zones concernées par les nuisances à l'atterrissage. Qu'en est-il pour les zones atteintes par les décollages? Les cartes que je vous ai présentées, là aussi, peut-être que je n'étais pas clair et je vous prie de m'en excuser, mais elles prennent bien en compte l'ensemble des mouvements prévisibles, à la fois les atterrissages et également les décollages. Donc, c'est bien ces cartes qu'on a vues tout à l'heure, ce sont bien des cartes qui tiennent compte des décollages et des atterrissages.
Vous vouliez, Monsieur Lacorde, donner la parole à Monsieur Latapy.
Voilà, merci Maxime. Si Thierry est avec nous, qu'on n'a pas de problème de connexion.
On ne vous entend pas, Monsieur Latapy. On vous voit parler, mais on ne vous entend pas.
Là, vous m'entendez mieux.
Parfait.
Voilà, donc Thierry Latapy, directeur départemental des territoires et de la mer. Par rapport à l'accompagnement territorial, l'accompagnement local, effectivement, dès l'annonce de l'abandon du transfert de l'aéroport sur Notre-Dame-des-Landes, il a bien été indiqué que dans les travaux territoriaux, il y avait la prise en compte, avec les élus, bien sûr, de la relocalisation des équipements publics, et en particulier pour Bouguenay du Collège de la Neustrie et pour Saint-Aignan de Grandlieu, des écoles du centre-bourg. Maintenant que le projet de réaménagement de l'aéroport, ce que a présenté Johan Lacorte de la DGAC est fixé, et en tout cas que les contours du projet sont fixés, que les courbes de bruit ont été présentées, les premiers travaux, les premières réunions, il y en a eu une récemment sur Bouguenay par rapport à la relocalisation du collège de la Neustrie, vont pouvoir se tenir. La recherche déjà de terrain, de lieux d'implantation pour la relocalisation de ces équipements, et bien sûr, à l'aune de ces nouvelles cartes de bruit, rechercher des espaces, des parcelles, bien sûr, éloignées des zones de bruit. Mais là aussi, puisqu'on est bien dans l'accompagnement territorial, c'est bien l'État qui accompagne les élus des collectivités pour les aider, bien sûr, dans le choix d'un éventuel lieu de relocalisation. Et la décision sera, bien sûr, prise par les élus qui sont compétents en la matière.
Merci, monsieur Latapi. Monsieur Lacorte, est-ce que vous vouliez peut-être revenir ? Est-ce que vous avez peut-être des informations sur les stations de mesure du bruit ?
Écoutez, oui, alors mes collègues m'indiquent qu'il y a des stations de mesure du bruit effectivement qui sont localisées à Jardin des Plantes, place Millénia à Saint-Aignan, également à l'IDN, enfin à l'école d'architecture. Après, donc ça, ce sont des stations qui de mesure du bruit. Il y a aussi des stations mobiles de mémoire, et pour le coup, par définition, elles permettent de mesurer le bruit à des endroits précis. Voilà, je ne sais pas si ça répond précisément à la question de la personne qui souhaitait savoir s'il était possible d'avoir une mesure de bruit là où elle habite. En tous les cas, il y a certainement davantage d'informations sur les sur le site internet du concessionnaire. Voilà, merci. Alors,
allez-y, monsieur Lagarde.
Est-ce qu'on a des questions orales ?
On a deux nouvelles questions. Alors, à nouveau, madame Blandine Forget, je vais vous donner la parole, madame Forget. Vous allez pouvoir réactiver votre micro. Voilà, on vous écoute.
Marche, oui. Oui, je voudrais rebondir sur une réponse qui a été faite par M. Lacorte tout à l'heure concernant les atterrissages par le sud, c'est-à-dire au-dessus de Saint-Aignan. Voilà. Il a été dit tout à l'heure, si j'ai bien compris, qu'il était possible de faire atterrir les avions par le sud 400 mètres plus loin sur la piste et qu'il peut y avoir un gain en gros de 25 mètres plus haut, donc par rapport à la situation actuelle de Saint-Aignan. Donc, a priori, si on fait ça, c'est pour obtenir une diminution sonore. Donc, si c'est le cas, il serait donc peut-être utile, et même très utile, de mettre cette nouvelle règle en œuvre, peut-être dès maintenant. Est-ce que cela permettrait aussi de voir très concrètement si cette mesure qui est proposée pour diminuer les nuisances sonores est effectivement une réalité, et aussi de le quantifier assez rapidement. Et puis cela servirait aussi, à mon avis, à évaluer à ce moment-là les conséquences pour les habitants survolés de Nantes, de Bouguenais et de Rezé, puisque eux, normalement, doivent aussi avoir un gain de, j'ai cru voir, 35 ou 40 mètres suivant les endroits sur Nantes, par exemple, ou sur Trentemoux. Donc, est-ce que éventuellement, c'est une proposition qui pourrait être faite rapidement ?
Merci madame pour votre question. Alors déjà tout ce que vous dites est juste, hein, vous avez parfaitement retenu tout ce qu'on a présenté. Merci pour votre attention. Donc on aura bien plus 25 mètres au-dessus de Saint-Aignan et puis plus 35 pour la trajectoire des accès au-dessus sur les approches par le nord. Et donc votre question, c'est de savoir si on peut pour Saint-Aignan mettre dès maintenant en œuvre le décalage du seuil, la réponse est non, parce que ce sont des travaux que nous avons prévu de confier au futur concessionnaire. Donc globalement, il faut attendre pour l'instant que le contrat de la future concession soit entré en vigueur, de façon à ce que un certain nombre d'opérations, de travaux, dont celle-ci, le décalage du seuil, c'est une opération quand même assez complexe, techniquement complexe, hein, je veux dire, puisse être réalisée. Et donc, j'anticipe un peu sur des éléments de conclusion, mais l'entrée en vigueur du contrat de concession est prévue à l'été 2022. Alors, sur la mesure du bruit, sur la mesure du gain en termes de décibels que procure le décalage du seuil de 400 mètres. Je pense que si on réalisait réellement des mesures, toutes choses égales par ailleurs, c'est-à-dire en ne changeant que ce seuil et en le décalant de 400 mètres, on aurait certainement un résultat décevant. En revanche, l'intérêt du projet, comme je l'indiquais tout à l'heure, je ne sais pas si vous étiez déjà avec nous, mais l'intérêt du projet, c'est justement de conjuguer tout un ensemble de mesures. Donc, il y a le couvre-feu, il y a le décalage des seuils. Par le nord, il y a aussi un décalage de seuil. Il y a des mesures sur les trajectoires. Et tous ces éléments-là conjugués font qu'on a un gain un gain en termes de protection des populations et donc de diminution du bruit. Donc tout ça, c'est ce que nous, État, nous avons prévu aujourd'hui et qui relève de ce qu'on peut faire et de ce qu'on sait faire. Par ailleurs, il y aura d'autres gains, je pense, qu'on pourra attendre et qui relèveront des propositions des candidats à l'appel d'offres. Vous l'avez compris, il y a un appel d'offres aujourd'hui qui est en cours et nous attendons de la part du secteur privé, des industriels, des groupements qui sont en compétition aujourd'hui pour obtenir cette concession, qu'ils fassent des propositions à même d'amplifier les effets des mesures que nous avons proposées. Ça peut passer par diverses mesures liées à l'exploitation, liées à la politique et d'incitation qu'un concessionnaire peut développer vis-à-vis des compagnies aériennes. Et c'est vraiment un savoir-faire spécifique que ne détient pas l'État. Il y a aussi la politique tarifaire du concessionnaire, on l'indiquait tout à l'heure, qui permet d'orienter les compagnies vers l'utilisation d'avions performants ou d'opérations sur tel ou tel créneau de la journée plutôt que, par exemple, la nuit. Donc, si vous voulez, on a un ensemble de leviers à la disposition d'une part de l'État et demain du futur concessionnaire qui vont permettre de réduire le bruit par rapport à ce qu'il serait en l'absence de ces mesures, et je pense de le réduire très significativement. Voilà aujourd'hui ce que je peux vous dire. Alors, c'est peut-être un peu général, j'en conviens, mais tant qu'on n'a pas de notre côté des offres et surtout un nouveau concessionnaire qui, ce sera aussi dans ses missions, viendra vous expliquer ce qu'il a prévu aussi, et y compris lors de l'enquête publique. Moi, je ne peux pas vous en dire davantage, mais ce dont je suis convaincu, et je pense pouvoir le dire aujourd'hui, c'est qu'on a des candidats qui sont très mobilisés et qui ont bien conscience, d'une part, des enjeux, d'autre part, des exigences de l'État en la matière, et qui feront certainement des propositions à la hauteur donc, de ces enjeux.
Pardon, merci Monsieur Lacorte. On a une autre question, une main levée, ça sera la dernière ce soir. Après, je pense qu'on prendra essentiellement des questions qui ont été posées sur Slido. Monsieur H. Hazelwood, j'espère que je n'écorche pas votre nom, enfin votre pseudo. Je vous laisse vous présenter, poser votre question, monsieur. Ou madame,
oui,
pardon.
Désolé. Bonjour.
Forcément, fait que je me trompe.
C'est pas grave. Donc, madame Hazelwood, je suis élue à Saint-Aignan-de-Grandlieu et riveraine de l'aéroport. Tout d'abord, c'est plutôt un commentaire qu'une question. Les chiffres que vous nous avez donnés quant à la baisse de la gêne sonore sont tous basés sur un calcul LDEN qui prend en compte le couvre-feu et donc les bruits de jour et de nuit. Donc, comme on l'a vu et comme vous l'avez très bien expliqué, la gêne sonore de la nuit va être en baisse, ce qui est très bien évidemment. Mais ça veut dire que tous les calculs et les chiffres prévisionnels sont biaisés. Ensuite, j'ai une question toute simple sur le couvre-feu par rapport au décollage des avions. Donc, on a vu un décollage à partir de 6 heures. Est-ce que ça veut dire que les avions seront autorisés à mettre leur moteur en route avant 6 heures et donc faire la queue leu-leu sur le tarmac et donc gêner tout autant les riverains avec le bruit des moteurs en route? Et enfin, je voulais juste reprendre le discours de M. Lanouzel tout à l'heure, où je le rejoins complètement, on le voit par rapport au nombre de dossiers qui se sont positionnés sur le délaissement ou sur l'aide à la revente, il est vraiment minime parce que, évidemment, les possibilités de le faire sont très, très restrictives. Donc, je rejoins complètement M. Lanouzel là-dessus. Je vous remercie.
Merci madame. Je vais répondre, je pense, aux divers points que vous avez soulevés. Sur le délaissement et la revente, le délaissement, il porte sur une zone de bruit fort, effectivement. Donc, c'est une zone qui est… peut-être que Maxime… je ne sais pas si
bien
on
sûr.
A… Non, mais je pensais qu'on est d'annexe… Oui, en fait, non. On n'a pas la carte à une échelle suffisamment zoomée pour qu'on puisse voir ça, mais… comment dire, la zone de délaissement, elle est dans la zone de, enfin, elle correspond à l'exposition à un niveau de bruit fort. Or, on est donc de ce fait-là assez proche de l'aéroport et dans une zone qui, en réalité, n'est pas très urbanisée. Alors, il y a des petits hameaux, il y a de l'habitat, il y a des personnes qui vivent là, évidemment, mais Donc, on n'est pas sur un tissu urbain densément construit et continu. De ce fait-là, nous avons estimé, avec les services de la préfecture, qu'il y a environ une cinquantaine de logements qui sont éligibles au délaissement. Donc, sur 50 de ces propriétaires, de ces logements, on a déjà 6 demandes de délaissement. Bon, ça veut dire qu'il y a de toute façon encore potentiellement un gain et une amplification des effets de cette mesure. Donc, je pense qu'il faut le faire savoir. On parle d'un certain nombre d'habitations qui sont vraiment les plus exposées. C'est une mesure, encore une fois, qui est inédite et qui... moi, qui me semble intéressante. Alors après, sur l'aide à la revente, on est sur une toute autre échelle, puisque là, nous avons estimé qu'on devait avoir autour de 1400 de mémoire, 1400 à peu près propriétaires éligibles. C'est loin d'être négligeable. Et donc, ça veut dire que pour ces 1400 propriétaires, s'ils ont un projet de vente et qu'on constate une moins-value de cession liée à la présence de l'aéroport et au bruit, eh bien, l'État s'engage à compenser cette moins-value de cession. Donc, moi, je trouve que c'est quand même, d'une part, c'est exceptionnel stricto sensu, c'est-à-dire que ça n'existe qu'une part ailleurs, et d'autre part, c'est quand même une aide tout à fait significative. Alors après, sur le couvre-feu, effectivement, il commence... il commence à minuit, il se termine à 6 heures. Qu'en est-il du démarrage, du redémarrage effectif du trafic? Est-ce qu'on aura du bruit avant 6 heures parce que effectivement les avions commenceront à être, les moteurs tourneront et se prépareront à décoller? Ça, moi, je ne sais pas vous répondre à ça. Je pense que c'est à l'évidence un enjeu, mais je pense que ça relève plutôt de la responsabilité du futur concessionnaire, dans la mesure où c'est à lui aussi, en tant qu'exploitant de l'aéroport, de travailler sous la forme d'incitations, de chartes, de bonnes pratiques avec les compagnies aériennes, de façon à ce que, de fait, les modalités opérationnelles d'exploitation de l'aéroport ne vident pas de son sens ou n'altèrent pas l'efficacité du couvre-feu qui a été voulu par l'État et par les élus. Voilà pour ce que je pouvais vous dire dans les médias.
Peut-être on n'a pas les cartes, Monsieur Lacorte, dans les annexes. Par contre, sur le site internet du projet de réaménagement, vous avez la carte que vous avez présentée, la carte interactive qui permet de localiser mon bien, localiser vos biens, et qui permet de bien identifier ces zones de bruit fort et très fort. C'est ça ?
Tout à fait.
Je dis pas de bêtises.
Effectivement, merci Maxime de le rappeler. Oui, je disais sur les zones de délaissement et d'aide à la revente, vous avez un outil de géolocalisation qui permet de voir comment se situe votre bien dans les deux zones d'éligibilité. Et ça permettra aussi à ceux qui le souhaitent de vérifier ce que je viens de vous indiquer, c'est-à-dire que la zone de délaissement qui correspond à l'exposition à un niveau de bruit fort est malgré tout relativement réduite. Alors évidemment, tout dépend du point de vue que l'on adopte. Selon qu'on est dedans ou pas dedans, on estimera toujours qu'elle sera beaucoup trop large. Mais en tout cas, à l'échelle du territoire, c'est effectivement une zone relativement réduite, ce qui explique pourquoi il y a dedans peu de personnes, relativement peu de personnes éligibles, une cinquantaine comme je l'indiquais. Voilà.
Il est 22h, je vous propose peut-être de prendre une dernière salve de questions Slido, écrites, et ensuite de clôturer cette réunion.
Très bien, merci Maxime.
Alors, on va aller voir s'afficher. Alors, on a beaucoup de questions sur les décollages et justement la prise en compte de ces décollages dans les différentes mesures de bruit et notamment toutes les différentes modélisations de bruit. Première question, pourquoi ne pas imposer les décollages au niveau du périphérique plutôt que de les faire survoler les zones urbanisées comme Rosay, les Sorinières? Peut-on leur imposer une prise, pareil, autre question, dans cette même question, peut-on leur imposer une prise rapide d'altitude? Autre question, la trajectoire des accès résulte aujourd'hui d'une dérogation. Avec le scénario à deux approches, la dérogation est-elle donc prolongée? Donc là, on est plutôt pour les atterrissages, on est revenu sur les atterrissages. Autre question, vous nous expliquez ne plus survoler la Chevrolière. Cela signifie-t-il que vous reportez les nuisances sur d'autres communes? Là, il me semble qu'on est à nouveau sur des décollages. Concernant, dernière question, concernant le couvre-feu, quand sera-t-il effectivement mis en place? Qu'est-il prévu pour les vols qui ne le respecteraient pas? Voilà.
D'accord. Merci, Maxime. Alors, je propose de répondre moi-même directement aux deux dernières questions et puis je passerai la parole à mes collègues donc, de Manuel Blanc et Sylvain Ric sur les deux premières. Quand le couvre-feu sera-t-il effectivement mis en place? Eh bien, en mars 2022. Donc ça, c'est vraiment l'entrée en vigueur du couvre-feu. Il sera applicable à compter de cette date-là pour la saison aéronautique donc de l'été 2022, ce que nous appelons la saison aéronautique de l'été 2022, mais qui commence en mars. Vous nous expliquez ne plus survoler la Chevrolière, cela signifie-t-il que vous reportez les nuisances sur d'autres communes? Alors, je ne sais pas, monsieur, madame, mais... pour l'instant, l'engagement que nous avons pris, c'est d'étudier une trajectoire nouvelle qui permet d'éviter de survoler la trajectoire, d'éviter la Chevrolière. Premièrement, aujourd'hui, ça n'est pas encore fait. C'est-à-dire que on est à un stade d'études préliminaires où nous discutons avec les élus pour justement évaluer l'opportunité de la modification qui est envisagée. En tout état de cause, ça exclut de reporter les nuisances sur d'autres communes pour plusieurs raisons. La première, c'est parce que, comme je l'ai indiqué tout à l'heure à l'occasion d'une réponse, moi j'ai retenu un enseignement quand même important, me semble-t-il, de la concertation de 2019, qui est que personne ne veut que le réaménagement se fasse au bénéfice des uns, mais au détriment des autres. C'est-à-dire qu'on veut éviter, dans la mesure du possible, de reporter les problèmes chez autrui. Et donc, il y avait quand même cet enjeu qu'on ait globalement un projet qui répartisse de manière équitable les avantages et les inconvénients du projet. Donc là, on est sur une modification de la Chevrolière, de ce que nous appelons la trajectoire de la Chevrolière, qui permet vraisemblablement de passer à un autre endroit qu'aujourd'hui et de ne pas survoler de zones habitées. Bon, donc c'est ce que nous étudions et ce que nous allons proposer. Donc, a priori, on ne reportera pas de nuisances sur d'autres communes. Maintenant, ce que je vous dis là, c'est le résultat d'études préliminaires et qui mériteront d'une part d'être confirmées et d'autre part d'être présentées au public et à l'ensemble des parties prenantes. Deuxième question concernant le couvre-feu. J'ai oublié de répondre en fait à... Je ne sais plus. Oui, quand il sera mis en place, je crois que j'ai répondu. Donc c'est mars 2022. Oui. Mais par contre, j'ai pas prévu sur les vols qui ne respectent. J'ai pas répondu à la deuxième partie de la question.
Exactement.
Qu'est-il prévu pour les vols qui ne respecteraient pas le couvre-feu? Alors là, la situation est claire. On a un couvre-feu qui est protecteur du cœur de nuit, minuit, 6 heures. C'est ce qu'a voulu l'État, c'est ce qu'ont voulu les élus. Comme je l'indiquais aussi pendant la présentation, il n'y a que des exceptions vraiment liées à des enjeux notamment de sécurité, d'évacuation sanitaire qui permettent de déroger. La liste n'est pas exhaustive, mais enfin, qui permettent de déroger au couvre-feu. Et le couvre-feu, son application, elle sera surveillée par l'autorité de surveillance de la sécurité. Si l'autorité de surveillance constate un manquement au couvre-feu, à ce moment-là, elle défère le dossier à l'autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires, la CNUSA, laquelle dispose d'un pouvoir de sanction et peut infliger des amendes proportionnées aux manquements qui ont été constatés une amende qui peut atteindre jusqu'à 40 000 euros par manquement. 40 000 euros, c'est beaucoup. En fait, c'est beaucoup parce que c'est bien au-delà de la recette, de la marge que peut faire un vol rempli. C'est vraiment dissuasif. Alors maintenant, sur les décollages au niveau du périphérique, je vous propose de passer la parole à mon collègue Sylvain Ric et ensuite, sur la question de la dérogation, on passera la parole à Emmanuel Blanc.
Merci Yoann. Merci pour la question, pas facile. Ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, nous avons une certaine marge de manœuvre pour construire les trajectoires, les procédures de départ, mais il y a quand même un certain nombre de contraintes et des contraintes réglementaires qui permettent d'assurer la sécurité des vols. première contrainte, nous devons, et ça c'est réglementaire, assurer une première partie de trajectoire dans l'axe de la piste. Et c'est qu'à partir d'un niveau de hauteur atteint qu'on peut définir un point de virage. Et donc là, nous utilisons déjà aujourd'hui des trajectoires de départ avec, en étant au minimum de la hauteur avant d'engager un virage. Donc, nous construisons les trajectoires de départ avec ces contraintes en essayant d'éviter au maximum les zones urbanisées, mais effectivement, on ne peut pas toujours arriver au résultat vu la position de l'aéroport par rapport aux villes environnantes. L'autre contrainte à laquelle qu'on doit prendre en compte, c'est éviter aussi les conflits entre les trajectoires d'arrivée et les trajectoires de départ. Concernant la deuxième question sur imposer une prise rapide d'altitude, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est publié à l'information aéronautique, hein, que les compagnies doivent appliquer. Les compagnies doivent avoir des conduites machines permettant d'éviter au maximum le bruit lorsqu'ils sont sur des trajectoires de départ. Et cela, ils le font en adaptant leur taux de montée de façon à générer le moins de bruit possible. C'est les procédures qu'on appelle NADP qui sont utilisées aujourd'hui par les compagnies aériennes.
Merci Sylvain. Et d'ailleurs, je crois qu'elles sont ces fameuses procédures NADP que tu cites sont utilisées aujourd'hui aussi bien à Nantes-Atlantique, aussi bien au décollage qu'à l'atterrissage, si je ne me trompe pas. Tu me confirmes ça?
Je confirme.
Merci. Eh bien, donc, il reste une question pour Emmanuel Blanc.
Oui, la trajectoire des accès et la dérogation. Alors, la trajectoire des accès, aujourd'hui, elle s'appuie d'une part sur une procédure conventionnelle, on va dire à l'ancienne, qui est basée sur un moyen de radionavigation physique qui s'appelle un VOR DME. Mais cette trajectoire des accès, elle peut s'appuyer aussi sur une procédure satellitaire. Normalement, ces procédures satellitaires, dans le plan horizontal, elles ont vocation à exister pour être dans l'axe de piste ou avec des désaxements faibles par rapport à l'axe de piste. Il se trouve qu'à Nantes, le désaxement par rapport à l'axe de piste, il est assez fort, il est presque de 13 degrés. Donc, il est nécessaire pour cette trajectoire qui suit la procédure satellitaire, qu'il y ait une dérogation. Une dérogation, ça s'appuie normalement sur des conditions qui permettent d'assurer que, bien que par rapport à la réglementation, on soit dans un cadre un peu spécifique, on peut le faire parce qu'il y a des conditions de sécurité qui assurent que finalement c'est acceptable. Alors effectivement, cette dérogation, elle peut être prolongée parce qu'elle s'appuie sur une condition, sans entrer non plus trop dans le détail, qui est liée au fait que, par mauvais temps, justement, la procédure qui sera suivie sera la procédure accès avec l'ILS, avec guidage vertical, donc un moyen très robuste. Donc effectivement, une dérogation qui a été prolongée parce qu'on a une procédure qui est robuste et sûre, et qui permet de s'assurer qu'on reste avec un bon niveau de sécurité.
Merci Emmanuel.
Ouais, merci Madame Blanc, merci Monsieur Lacorte. On va pouvoir passer à la conclusion de cette réunion, puisqu'on n'a plus de main levée, on a encore des questions, mais comme je vous le disais, ces questions seront plutôt traitées par écrit sur le site internet, et si vous vous inscrivez sur la newsletter qui est présente sur le site du réaménagement, vous serez informé de la disponibilité de ces réponses. Monsieur Lacorte, je vous laisse la main pour la conclusion.
Merci Maxime. On va vous proposer avec mon collègue Thierry Letapy deux mots de coin. Conclusion, déjà sur l'état d'avancement des 31 engagements, qu'a pris l'État. Vous avez là une synthèse de ces mesures par grand thème, protéger la population, protéger l'environnement, réaménager l'aéroport, et puis les enjeux de gouvernance et de transparence d'information. Donc, ce qu'on voit, c'est que l'ensemble des mesures, globalement, avancent selon le calendrier prévisionnel ou sont déjà réalisées. Et pour ceux qui souhaitent avoir davantage d'informations sur cet état d'avancement, vous pouvez, d'ailleurs, c'est indiqué sur la diapositive, vous pouvez vous rendre sur les sites internet du projet et vous avez vraiment, mesure par mesure, un point avec la consistance de la mesure, où on en est, et les étapes suivantes lorsque la mesure n'est pas encore complètement réalisée. Alors, le couvre-feu, on l'a dit tout à l'heure, son entrée en vigueur est imminente, mars 2022. C'est un léger décalage par rapport à ce que nous avions annoncé, mais enfin, je pense qu'on peut dire qu'on est au rendez-vous. Et puis, il reste la question de la modification des trajectoires d'approche pour les atterrissages face au sud. On en a, je pense, longuement parlé aujourd'hui, vous l'avez vu, et au travers notamment des questions que vous avez posées d'ailleurs, et des réponses qui ont été apportées par la directrice de l'autorité de surveillance, Emmanuel Blanc. Vous avez bien compris qu'on est sur des approches qui sont à la fois rares et dont les enjeux de sécurité sont quand même des enjeux de tout premier plan. Et donc c'est pour ça qu'il a fallu, pour pouvoir proposer ce scénario-là de manière tout à fait sûre, la sécurité, c'est un impératif, il a fallu réaliser des études à la fois de sécurité et de navigabilité aérienne, ça c'est chez mon collègue Sylvain Ric, que vous avez également entendu, qui ont pris du temps. Et effectivement, on ne va pas se le cacher, davantage de temps que nous avions prévu, mais en tout cas, aujourd'hui, ces approches, elles seront réalisées et elles pourront entrer en vigueur mi-2023. Voilà donc sur le suivi des engagements d'État, quelques repères de calendrier plus généraux. Donc aujourd'hui, nous sommes presque fin 2021. Le futur contrat de concession entrera en vigueur vers l'été 2022. Et puis, autour de 2024, sans doute 2025, après une phase d'études, et notamment d'études environnementales, ça a été souligné par de nombreuses questions là aussi aujourd'hui, il y a des sujets liés à l'impact du projet sur l'environnement, la faune, la flore, et puis les milieux écologiques, mais il y a aussi des enjeux que personne n'oublie, des enjeux d'impact pour les populations en termes de bruit, en termes de santé aussi. Et donc, ces études-là, il faut qu'elles soient faites sérieusement et ensuite qu'elles soient présentées au public. Donc, toute cette phase-là de préparation d'études interviendra entre l'entrée en vigueur du contrat et puis autour de 2024-2025. À partir de là, et après une enquête publique, les travaux pourront commencer. Voilà sur les grands repères chronologiques. Je passe sur ce qui est déjà réalisé. Peut-être deux mots, Thierry, si tu le veux bien, sur l'observatoire territorial dont je comprends qu'il va être mis à jour. Mais...
Oui, bonsoir à tous. Effectivement, les deux dernières vues qui sont un peu sur la mise à disposition du public, je dirais de l'ensemble des données, des études relative à l'aéroport et à son environnement suite au débat public de la concertation de 2019. Ça avait été un constat partagé qu'il y avait un ensemble de données qui existaient, mais qui avait une nécessité d'objectiver ces données, de suivre aussi ces données dans le temps pour voir aussi l'impact et puis pour objectiver l'impact de l'aéroport et du trafic, et puis bien sûr de les mettre à disposition du public. Et donc, c'est l'ambition à travers cet observatoire territorial, otana.fr, qui a été mis effectivement en ligne l'année dernière. Certaines données sont mises à jour au fur et à mesure, en continu, et puis d'autres plutôt sur une période annuelle. Et là, pour 2020, donc ça va se faire ce trimestre-ci, sachant qu'effectivement, avec la baisse du trafic forte par rapport à la crise sanitaire, on sait que l'évolution est faussée. Ça sera important, en tout cas, c'est l'ambition de cet observatoire, c'est bien d'avoir un suivi, une cohorte d'indicateurs dans le temps. Voilà, et donc je vous invite à aller voir sur le site otana.fr.
Merci Thierry. Et puis enfin, quelques mots pour vous indiquer comment vous pouvez vous informer sur le projet, poser des questions au maître d'ouvrage, c'est-à-dire à la DGAC. Pour comprendre le projet, poser une question au maître d'ouvrage, donc, et même faire d'ailleurs aussi vos propositions. Vous pouvez vous rendre sur le site internet du projet, il y a une rubrique spécifique qu'on trouve assez facilement. Et puis, comme l'indiquait à l'instant Thierry Latapi, vous avez aussi de nombreuses informations sur le site de l'Observatoire territorial, qu'on vous invite à visiter également, puisqu'il a été vraiment conçu spécifiquement pour accompagner cette demande d'avoir des informations sur le projet. Suivre l'actualité du projet, bien sûr, au travers de la newsletter que nous envoyons à nos 1400 abonnés. Donc, vous êtes déjà très nombreux à recevoir cette newsletter. Cette newsletter, c'est un outil d'information qui vous permet de savoir quand il y a des événements sur le projet, des réunions publiques ou des études qui sont mises en ligne. On est là pour informer et ça ne dépasse pas cet enjeu-là. Et bien sûr, nous prenons dès aujourd'hui rendez-vous avec vous pour un autre cycle de réunions publiques qui pourra être organisé en 2022 afin de faire un nouveau point d'étape. Et enfin, pour toutes celles et ceux qui souhaitent bénéficier des aides, vous pouvez obtenir des renseignements sur votre situation, d'une part sur le site du projet réaménagement-nantes-atlantique.fr, rubrique aide aux riverains, mais vous pouvez aussi directement contacter le GIP, le groupement d'intérêt public Fonds de compensation Nantes-Atlantique. Tout à l'heure, le directeur du GIP est venu vous présenter l'état d'avancement des dossiers qui lui ont été soumis. Vous pouvez le saisir directement via l'adresse électronique qui est indiquée sur cette diapositive. Voilà. Alors, je vous propose maintenant peut-être un mot de conclusion avec mon collègue Thierry Latapi. Moi, je tiens évidemment à vous remercier tous d'avoir participé à cette réunion.